Bonjour Colette Olive.
Bonjour Valérie.
Alors nous sommes ici à Verdier, chez vous, là où sont nées les éditions Verdier, qui fêtent leur 40e anniversaire ce mois d'août 2019. Alors voilà, on entend les cigales, on a un très beau jardin, et en réalité on est chez vous et c'est là que toute l'aventure éditoriale a commencé. Alors racontez-nous un petit peu... Où est ce Verdier et quelle est son histoire?
Alors, ce Verdier est situé en plein cœur des Corbières, à côté entre un petit village qui s'appelle Rieux-en-Val, c'est sur la commune de Rieux-en-Val précisément, et à 8 km de La Grasse, le lieu où nous organisons chaque année un banquet du livre. Le nom de la maison porte le nom du lieu, Verdier, qui est une maison entourée de terre, des vignes à l'origine, puisque on est en Corbières et maintenant les vignes ont été remplacées par des oliviers. Ce lieu nous vient de ma famille paternelle qui a vécu là. Mon père est né à Verdier, puis a quitté cet endroit vers l'âge de 7-8 ans. Et donc moi j'ai grandi dans le hameau tout près. Et puis, tout naturellement, quand nous étions étudiants à Toulouse, nous sommes venus passer nos week-ends à la campagne, avec évidemment toujours énormément d'amis. Enfin, les études à Toulouse, pour vous situer, c'est à partir de 68 jusqu'en 74-76, voilà. Donc une période riche en événements politiques et ce lieu est vite devenu un endroit où nos amis venaient, non seulement pour se divertir et pour prendre quelques repos, mais aussi pour discuter, pour réfléchir et surtout aussi beaucoup pour rencontrer les habitants du coin, à savoir à l'époque les viticulteurs, puisque c'est un pays de vignes, et donc les viticulteurs étaient aussi très actifs, puisque dans les années 70, il y a eu une crise importante en milieu viticole, et la jonction s'est faite tout naturellement entre les militants politiques, les étudiants et les personnes qu'on appelait à l'époque les établis, c'est-à-dire des militants d'extrême gauche qui travaillaient en usine ou bien ailleurs, chez des paysans ou étaient ouvriers chez des maçons, chez des artisans. Et donc la jonction s'est faite tout naturellement et on a vécu des époques très, très, très riches en conversation, et c'était un moment où tout le monde vivait, enfin on vivait tous ensemble quoi,
avec les communautés, voilà. L'esprit communauté,
oui, avec les habitants des villages et nous et les jeunes quoi.
Et puis il est arrivé quelqu'un, alors je ne sais pas s'il était étudiant avec vous ou si on fait un petit peu l'historique des gens qui ont fait cette maison d'édition Verdier. Qui avait-il ici qui finalement va faire partie de l'aventure?
Alors, faisant partie de l'aventure, évidemment, il y avait, bon, puisque nous étions, comme je disais, étudiants à Toulouse, et puis certains établis, il y avait donc Gérard Bobillier, Benoît Rivero, Michel Planel et moi-même, plus nos amis parisiens ou toulousains qui nous rejoignaient l'été ou aussi à des moments très très importants de travaux. Par exemple la famille Lévy a fait les vendanges avec nous chez mes parents. Donc voilà, c'est au-delà de l'engagement politique, il y a eu aussi un vrai engagement amical, personnel, enfin de vrais liens qui se sont tissés avec tous les habitants de ces petites communes quoi.
Et il faut dire que l'engagement politique, on va le préciser un petit peu, donc il s'agit de la gauche prolétarienne.
Oui.
Et à un moment, voilà, vous sortez de cet engagement et vous tournez vers un autre qui est celui des textes, celui de comment s'est fait cette bifurcation si on arrive à la naissance de la maison d'édition.
Elle s'est toujours faite dans ce lieu, c'est-à-dire que la dissolution s'est décidée ici, autour de cette table, mm-hmm. dans les années 73-74. Dissolution ne voulait pas dire qu'on arrête tout. On a évidemment continué à se voir, à converser, à lire bien sûr, à discuter. On était tous plus ou moins universitaires ou étudiants et se posaient la question évidemment de ce qu'on allait faire de nos vies dans les ans. Autour des 30-40 ans, enfin disons 30-35 ans, bon, c'est une question qui se pose. On a continué à se rencontrer, à travailler ensemble autour, évidemment, on était tous littéraires ou philosophes. Au départ, les discussions portaient sur l'actualité, sur ce qui se passait dans le monde, en France et dans le monde. On a appelé ça les cercles socratiques parce que c'était très ouvert. On allait chez les uns, chez les autres et on conversait autour souvent de repas et de bon vin. Mm-hmm. Et puis, nous avons rencontré, des jeunes, un jeune garçon notamment, qui lui était philosophe, bien sûr, était étudiant en philosophie, pardon. Et souhaitait absolument rencontrer des personnes qui s'étaient engagées dans leur vie sociale, quoi, alors que lui était traduisait des textes déjà très jeune, enfin était vraiment
un intellectuel,
l'intellectuel. Était vraiment dans le livre, quoi, voilà. Et cette rencontre a fait que nos amis juifs qui étaient avec nous se sont évidemment inquiétés de ces textes qu'on ne connaissait pas et auxquels on n'avait pas accès.
Inquiétés dans le sens positif,
bien sûr, inquiétés, c'est-à-dire
plein de curiosité.
Oui, allons voir ce qu'on n'a pas appris, ce qu'on ne nous a pas enseigné, l'Ancien Testament et les commentaires. Et donc, on s'est tous plongés dans la Bible au départ, hein, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, dans la langue originale, avec des personnes qui commentaient, enfin qui étaient capables et de déchiffrer l'hébreu, ce que nous ne savions pas, et de commenter. Et très vite, ces textes ont fait écho chez nous aussi, chez nous qui étions des engagés très laïcs. Et petit à petit, le groupe a grossi et a étudié. Chacun à son rythme, hein, c'était aussi des rencontres qu'on a appelé les cercles bibliques.
Voilà. Ah, donc le cercle socratique, cercle biblique.
Voilà, oui.
Et le jeune garçon, quand même, il faut le nommer,
oui,
celui-là.
Ce jeune garçon qu'on a rencontré et avec qui on a cheminé, du coup, dès la première année jusqu'à sa disparition. Hélas, il nous a quittés très jeunes. C'était Charles Mopsik, qui, effectivement, est venu, là, était partagé avec nous le quotidien. Lui, évidemment, dans ses classes, il avait une demande de ses collègues et amis qui disaient « Mais comment ça se fait que on ne peut pas avoir accès à ces textes si on ne sait pas l'hébreu ?» Et puis, on ne va pas tous forcément passer par là. Il faudrait faire quelque chose. Et il a eu très, très vite cette idée extraordinaire de dire... On peut, on peut en effet créer une collection, on peut traduire, et donc est né ce projet de traduction en français de grands textes de la tradition hébraïque qui s'appelle les Dix Paroles, qui s'appelle toujours les Dix Paroles, et qui a fait le pari très tôt d'offrir, et ça on le doit à Charles Mopsik, d'offrir aux lecteurs dans les librairies traditionnelles et pas uniquement les librairies spécialisées, ces textes-là en français. Et il a même fait le pari que nous avons réussi de nous dire, si on publie ce texte extraordinaire de Maïmonide qui s'appelle « Le guide des égarés » dans une édition abordable financièrement, on va faire entrer ce texte dans les études de philosophie traditionnelle, quoi. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, ce texte est étudié en philosophie et n'est plus uniquement dans les rayons religieux ou ésotériques des librairies. Voilà. Donc ça, c'est un pari qu'il a réussi et il faut lui rendre vraiment cette grâce. C'est que voilà, il avait cette idée. Lui dans son coin avec ses amis, et puis cette rencontre avec nous a fait que la chose s'est réalisée et l'édition a démarré comme ça, parce que en effet c'est devant cette force et ce besoin et cette conviction, on a dit ben oui, allez, on y va, même voilà. Si on...
Donc les jeunes politisés qui voulaient changer le monde ont été dans les textes sacrés de la tradition hébraïque, et donc Maïmonide, c'est 14e siècle, c'est le guide des égarés. Donc c'est vrai qu'on se dit quel grand écart.
Oui, grand écart, mais très, pas seulement, parce qu'en effet, ces textes parlent aux contemporains aujourd'hui, quoi. Donc ça veut dire que c'était aussi pour nous, alors fondateur des éditions Verdier, encore une fois, je le répète, en plein milieu des Corbières, donc dans ce cœur de la Méditerranée qui dans cette époque-là était le creuset des rencontres dans toutes ces civilisations grecques, arabes, juives. Et d'ailleurs, Narbonne, la Kabbale est née à Narbonne, donc je veux dire, on était là-dedans, et c'est ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire, Gérard Bobillier disait souvent qu'on était entre Athènes et Jérusalem, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, donc les Corbières, c'est ça, quoi. C'était ça pour lui.
Alors Gérard Bobillier qui nous a quittés il y a 10 ans, c'est aussi l'anniversaire de sa mort. Parlons maintenant d'une autre figure importante, même capitale, du parcours des éditions Verdier. C'est Benny Lévy. On a entendu hier soir au banquet du livre, ce banquet que vous organisez depuis 25 ans dans le village non loin d'ici de Verdier qui s'appelle La Grâce avec son abbaye. Dans ce banquet, on a vu hier soir une sorte d'interprétation des dialogues qu'ont eu Jean-Paul Sartre et son secrétaire de l'époque, Benny Lévy, autour de la notion de l'espoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Benny Lévy a insufflé à cette maison, dont on pourrait finir par croire, à vous entendre, que c'est une maison spécialisée dans l'édition des textes hébraïques et de la pensée juive?
Pas uniquement, en tout cas, et pas exactement. Enfin, je veux dire, Benny Lévy, il faut un peu le situer. Benny Lévy, c'est Pierre Victor au moment de la gauche prolétarienne. Donc, c'était notre responsable politique national. Pourquoi Pierre Victor? Parce qu'il était apatride à l'époque, et donc, sans papier. Donc, il avait dû prendre un faux nom, un autre nom. Et c'était Pierre Victor. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut situer à ce moment-là, quand les dirigeants du journal du mouvement qui s'appelait La Cause du Peuple ont été emprisonnés, je vais citer Alain Gesmard et Michel Lebris, s'est posé la question de de les remplacer et de et c'est Jean-Paul Sartre qui s'est présenté. Hier, on a entendu parler de la notion de compagnon de route. Bon, voilà, Jean-Paul Sartre était là. Il était en effet compagnon d'Emao dans les luttes du Nord, dans les mines, enfin auprès des ouvriers dans les mines du Nord et tout. Et tout naturellement, Jean-Paul Sartre s'est proposé. Voilà, donc un lien est né entre Jean-Paul Sartre et Béni Lévy. C'est d'ailleurs Sartre, au moment de Giscard d'Estaing au pouvoir, quand Giscard d'Estaing était au pouvoir, qui a réussi à faire que Béni Lévy ait des papiers et donc retrouve son nom, c'est-à-dire Béni Lévy. Et dans les années 80, Sartre, ayant de plus en plus de difficultés à voir, avait besoin d'une personne, on disait secrétaire, mais on a bien entendu hier soir que Béni Lévy n'était pas un secrétaire, mais était un vrai interlocuteur. Il était quelqu'un avec qui, évidemment, une relation très forte s'est créée. Au passage, je dois dire d'ailleurs que à ce moment-là, il y a eu, la famille Lévy a vécu dans un lieu autour de Paris en communauté avec plusieurs personnes, et dont la fille adoptive de Jean-Paul Sartre, Arlette El-Kaïm. Et en effet, Sartre rend des visites à la communauté très régulièrement. Et voilà, tout naturellement, Béni Lévy est devenu le compagnon, on va dire, de Sartre jusqu'à la fin de sa vie. Et avait un projet, un livre sur l'État et la Révolution. C'est pour ça que les discussions étaient très, très, très nourries tous les jours.
Et donc, comment Béni Lévy est-il arrivé aux éditions Verdier ?
Aux éditions proprement dit, vous voulez dire? C'est-à-dire, Béni Lévy était là. Son premier texte publié chez nous, en 84, a été « Le nom de l'homme », sous-titré « Dialogue avec Sartre ». Donc c'était un peu l'émanation des débuts de ses conversations et de ses travaux avec l'œuvre de Sartre, essentiellement. Voilà. Bon, ça s'est fait tout naturellement, c'est-à-dire qu'il était, à la création de la maison. Quand j'ai cité nos quatre noms, Gérard Mobilier, Benoît Rivero, Michel Planel et Colette Olive, bon, j'ai pas cité Béni Lévy, mais il était déjà là. D'autres personnes étaient là, comme Jean-Michel Mariot, Charles Mopsic, évidemment. On était tout un groupe qui avons mis en place cette structure. Et puis ensuite, quatre personnes s'en sont occupées directement. Mais bon,
Et donc, les éditions Verdier, je rappelle qu'on est en plein milieu de la maison dite Verdier, enfin c'est un lieu. Hein. Mm-hmm. Les éditions Verdier, c'est aussi un catalogue de littérature du monde entier, avec un énorme potentiel sur les textes pas encore traduits et que vous faites traduire en français. Et c'est aussi la littérature française. Alors je citerai Charles Amos, je citerai Delibes, je citerai. Enfin, il y en a tant à citer, mais il y a aussi une certaine littérature française, avec des noms comme celui de Pierre Michon, comme celui de Pierre Bergougnou, et beaucoup plus jeune, dans votre catalogue, Michel Desbordes, tout récemment Antoine Vautter, c'est évidemment, j'en oublie de nombreux, Lutz Bassmann aussi, qui n'est autre que l'autre face d'Antoine Volodine, qui était tout à l'heure ici avec vous à cette même table où sont nées les éditions. Alors, 40 ans après, comment dessineriez-vous, puisque vous êtes maintenant Michel Planel et vous, Colette Olive, à la direction de ces éditions. Comment est-ce que vous pourriez décrire la façon dont s'est nourri ce catalogue? Qu'est-ce qui a fait le fil conducteur entre philosophie, littérature, littérature étrangère?
J'ai coutume de dire que depuis le début, ce catalogue, c'est un parcours. Et c'est des rencontres surtout, ce qui se lit parfaitement dans ce petit fascicule qu'on a édité pour les 40 ans, qui est une sorte de chemin chronologique de nos 40 années d'édition. Parce que c'est vrai que dès le début, dès le premier catalogue, il y avait un premier roman, donc il y avait déjà un texte de littérature contemporaine qui était là, donc qui disait qu'on allait s'intéresser à la littérature.
Rappelez-nous le titre.
Voilà, « Nous ne nous aimons pas » de Jean-Claude Vernier. Là aussi, compagnon, ex-fondateur de l'agence APL Libération, qui est devenu le journal Libération ensuite. Voilà. Donc dès le début, évidemment, il y avait le souci d'être dans notre temps aussi. Voilà. Et puis au fil des ans, les rencontres se sont faites et des éditions de textes venant de pays étrangers, entre guillemets, je veux dire, je vais citer l'Italie, l'Allemagne, la Russie, voilà. Mais ces textes sont venus parce que des rencontres se sont faites, c'est-à-dire qu'un jour s'est présenté, je ne sais, Jean-Yves Masson qu'on a rencontré d'ailleurs. C'est assez intéressant aussi. C'est Jean-Yves Masson qui nous a parlé de Michel Desbordes et qui nous a présenté Michel et qui nous a dit avoir lu ce manuscrit extraordinaire qui s'appelait La Demande et qu'on a publié. Voilà.
Un très très beau texte. Oui.
Et donc Jean-Yves Masson qui était traducteur de l'allemand et notamment lui aussi poète et spécialiste de Rilke et d'Hoffmannsthal avait comme ça proposé un petit texte de Rilke, des poèmes de Rilke en traduction. Et puis il connaissait notre catalogue, il avait lu évidemment les textes précédents qui étaient parus et très vite, on lui a dit de participer à l'édition avec nous en s'occupant d'une collection de textes en langue allemande. Ouais, j'oubliais quelque chose, c'est que Jean-Yves Masson, il est arrivé à Verdier par un texte traduit de l'italien.
Alors que c'est son domaine est l'Allemagne, oui. Et que le domaine de l'Italie était celui de Bernard Simeone.
Il avait rencontré Bernard Simeone et il lui avait proposé la traduction de Cahiers gothiques.
Donc c'est des rencontres, un parcours, mais enfin c'est aussi un état d'esprit. Alors je vous propose de partir à la découverte, non pas de toute la maison familiale, mais du moins des bureaux, puisque à un moment vous êtes monté à Paris, comme on dit, mais l'implantation dans les Corbières est toujours demeurée. Et alors là, on entre dans cette maison où il fait frais, d'ailleurs.
Oui, la maison est en effet située au nord, ce qui explique qu'il fait frais au rez-de-chaussée et un peu plus chaud à l'étage.
Au passage, je signale que la cuisine est vaste et que Colette Olive est une grande cuisinière et que vous avez d'ailleurs au sein des éditions Verdier intitulé une collection 36 façons d'accommoder, notamment la tomate.
Les moules, la tomate, les moules, oui, le raisin forcément, puisque bon, voilà, c'est notre spécialité, on va dire, hein, puisque je suis fille de vigneron, donc voilà. Oui, petite collection qui n'a pas... Une amie a fait 36 façons d'accommoder le pruneau. Et puis, je ne sais pas, on ne voulait pas voir Verdier éditer de la cuisine, donc ça n'a pas très bien marché, donc on a arrêté. Mais je continue à cuisiner, par contre.
C'est bien. Alors là, maintenant, nous sommes dans ce bureau. Qu'est-ce que c'est que la réputation de la petite édition de province qui, tout d'un coup, non pas monte à Paris ou à l'assaut de Paris, mais entre la petite maison et les bureaux parisiens et votre reconnaissance. Maintenant, vous êtes diffusé par Gallimard. Comment on en arrive là sans perdre son âme, on va dire?
Ah ben, petit à petit, parce que les choses sont faites très, j'allais dire, très artisanalement et très progressivement, mais de notre fait, hein, parce qu'on ne souhaitait pas devenir une très grosse maison, parce qu'on ne souhaitait pas avoir une structure énorme, et parce qu'on voulait continuer à pouvoir être indépendant, c'est-à-dire publier ce dont on pense que c'est encore nécessaire aujourd'hui, même si c'est une folie éditoriale, c'est-à-dire même si on se dit que ça va être très long à être équilibré, quoi. Ça va être très long à se vendre, même si toutes ces raisons pourraient dire qu'il ne faut pas faire ça, par exemple. La logique aurait dit qu'il ne faut pas publier les œuvres théâtrales complètes d'Armand Gatti, parce que ça coûte trop cher, parce que ça ne se vendra pas suffisamment. Voilà. Mais on a publié les œuvres théâtrales complètes d'Armand Gatti parce que pour nous, c'était important, parce que c'était quelqu'un qui travaillait un petit peu sur le même registre que nous. C'était quelqu'un qu'on avait rencontré à Toulouse quand il a fait une expérience à Toulouse avec des populations marginales et qu'il a vécu 2 ans là. On est allé le voir, on l'a rencontré, on a travaillé avec lui. Voilà, c'est aussi ça, les rencontres, et c'est aussi ça, Verdier. Et en effet, petit à petit, je dis, parce que la diffusion, au début... on s'est diffusé nous-mêmes pendant 10 ans, c'est-à-dire que 4 amis se sont partagés la France et sont allés voir les libraires. Et c'est ainsi qu'on a créé un réseau de libraires fidèles qui ont tout de suite compris ce qu'on voulait faire et qui ont adhéré à notre projet. Et donc on a fait tant qu'on a pu, j'allais dire physiquement, et que le travail nous permettait de faire ça, on l'a fait. On a eu la chance de, en même temps, rencontrer une équipe de jeunes éditeurs comme nous qui avaient ce souci aussi d'être bien diffusés et surtout bien distribués. Et c'est à ce moment-là que Distique s'est créée, la maison de distribution. Et donc on a tout de suite adhéré à ce groupe, quoi. Et on a été distribués pendant 10 ans très très bien par Distique. Puis quand Distique a dysfonctionné, on est allé aux puces, on est allé voir les puces qui, évidemment, au vu du catalogue, nous ont accueillis tout de suite. Et ensuite, 10 ans ou 15 ans après, quand les puces à nouveau ont dysfonctionné, à ce moment-là, on est allé voir Antoine Gallimard et on est rentré au CDE. Voilà, mais c'était un peu une logique qu'on avait imaginée dès le début, je veux dire. C'est-à-dire, on avait dit, par exemple, non, on ne va pas au CDE tout de suite, on est trop petit. Enfin, vous voyez, donc, voilà.
Oui, petit à petit, comme on dit. Oui.
Et pour toujours avec ce souci de l'indépendance, c'est-à-dire de pouvoir continuer à publier ce qui pour nous était essentiel et nécessaire, quoi.
Alors chaque année, vous faites à la Grâce le banquet du livre, qui est une réunion d'écrivains, d'intellectuels. On pense, on boit, on échange et on marche. Et je voulais savoir qu'est-ce que représentaient les 2 termes de cette édition anniversaire 2019 qui était transfiguré, transformé. Qu'est-ce que ça veut dire pour les éditions Verdier?
Ben, ça veut un peu toujours dire ce qui est notre projet, ce qui était notre projet initial, c'est-à-dire que notre projet quand nous étions militants, c'était un transformer le monde dans notre petite mesure. Quand on a publié, on s'est dit que les livres qu'on allait mettre en vente allaient aider à une sorte de transformation, ou en tout cas d'amélioration, ou de bienfaits pour nos contemporains. Et je crois que le banquet, le quand on a créé cette manifestation, on avait aussi ce souci-là, c'est-à-dire de un petit peu revenir à une sorte, renouer avec une sorte de communauté qui ferait que les différentes forces pourraient en effet quelque part agir sur la conscience du monde, on va dire, enfin en tout cas du public et de des gens qui nous rejoignent chaque année. Je crois que le fait qu'il y ait quand même une certaine fidélité tous les ans prouve que finalement il y a un peu besoin, quoi, enfin je crois.
Le dernier mot sera pour Gérard Bobillier, dont on voit le portrait là sur des journaux. Comment fait-on à deux femmes, d'ailleurs dans l'exposition Pierre Virgouniou vous invite dans une lettre, puisqu'il y a plein de correspondances dans cette exposition des 40 ans de Verdier à l'abbaye de la Grâce, on a le sentiment qu'il faudrait que les femmes prennent le pouvoir. Donc Michel Planel et vous, Colette Olive, êtes aujourd'hui aux manettes de Verdier. Qu'est-ce qu'il y a maintenant à transmettre de ce que vous faisiez avec Gérard Bobillier? Dans quelle mesure il manque? Et qui ou comment ou quoi peut venir, non pas après vous, mais que vous pourriez former déjà pour perpétuer, pour qu'il y ait les 80 ans des éditions Verdier?
Les absents manquent toujours, bien sûr, mais je crois que ce qui fait, encore une fois, notre force, c'est le fait que toutes les deux, nous ayons pu continuer ce projet. Après 2 ans de maladie de Gérard Bobillier et finalement sa disparition, si on a pu continuer, c'est parce que, en effet, c'était pas Gérard Bobillier qui dirigeait, c'était un groupe qui travaillait et que il y avait tout était transparent, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune, on a pu tout de suite tout avoir en main parce qu'on n'avait jamais rien abandonné. Et aussi bien, là je vais dire des choses, aussi bien la gestion des stocks que les chiffres, que la comptabilité, que l'éditorial, on y était immergé. Et donc on a pu, voilà. Et je crois que c'était ça le projet. Et je crois que, oui, le fait d'être là au bout de 40 ans, alors que Gérard a disparu, Charles Mopsic a disparu, Béni a disparu... Enfin bon, beaucoup nous manque. Bernard Siméon, n'en parlons pas, on ne l'a pas cité, mais bon, c'est lui qui a créé cette magnifique collection qui s'appelle Terra d'Altri, de textes italiens, magnifiques. Voilà, je crois que c'est cette force du groupe, du collectif qui fait qu'on a pu continuer et on peut être là et on peut aussi, c'est pour ça que je crois que ces 40 ans pour nous c'est important et on a décidé on a décidé avec tous ceux qui nous accompagnent, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous accompagne pour ces 40 ans puisque ça se déroule tout au long de l'année et c'est un vrai c'est une vraie satisfaction, quoi. Et évidemment, nos consoeurs qui travaillent avec nous, qui sont des jeunes femmes quarantenaires, sont bien sûr très impliquées dans la maison et ne pourraient, elles ont en partie quasiment tout construit ce catalogue magnifique des 40 ans et c'est bien sûr que si elles sont là depuis maintenant 15 ans ou pas loin de 20 ans, c'est qu'elles sont engagées comme nous.
Donc l'engagement n'est pas terminé.
Non, l'engagement continue.
Merci Colette Olive de cet entretien donc au cœur des Corbières, dans le lieu qui porte le nom de la maison d'édition Verdier et qui est votre demeure familiale.